L'église Vase d'honneur Québec, Assemblée Expression d'amour, a le plaisir de vous présenter le pasteur Lorenzo Cavallaro. Nous vous convions par le biais de ce message de laisser votre esprit être nourri et encouragé par la parole de Dieu.
Alléluia, gloire à Dieu. Alors nous devons comprendre que lorsqu'on est héritier ou on est né d'une personne, d'office on est héritier de la personne. Tant que la personne ne nous considère plus comme enfant, nous sommes toujours héritiers. Pour qu'on puisse déshériter une personne, c'est qu'on est arrivé au point où cette personne ne voit plus la personne comme un enfant. N'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Luc 18, verset 20 au verset 30 dit ceci. Pierre dit alors, vous devez comprendre que tout ce que vous laissez pour rentrer dans le royaume, vous allez le gagner beaucoup plus. Amen. Pierre dit ceci. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si il n'est personne qui ayant quitté, à cause de quoi? À cause de quoi? Du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses parents, ou c'est, voilà, ne reçoivent beaucoup plus, dis avec moi, beaucoup plus. Dans quel siècle? Et ensuite, alors je suis en train de vous dire que obtenir votre héritage n'est pas quelque chose qui vient après la mort. Cette doctrine est fausse. Alléluia. Lorsqu'on prie le Notre Père, on dit que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite où? Au ciel. Donc, on n'attend pas de mourir pour rentrer dans notre destinée. On n'attend pas de mourir pour rentrer dans notre héritage. Jésus est déjà mort. Et sa mort, son testament a été déjà constaté. Donc, tu es héritier légitime. Et Pierre ici, ayant vu les difficultés à venir, a dit à Jésus, mais il n'est pas avantageux. Jésus lui dit, écoute-moi, il n'y a personne sur cette terre qui va quitter sa vie, qui va décider de laisser ses mauvaises attitudes pour me suivre et qui ne va pas avoir, même dans ce siècle et le siècle à venir, 100 fois plus que ce qu'il a laissé. Donc je te dis aujourd'hui que ton héritage sur terre par Christ Jésus est 100 fois plus que ce que tu es en train de laisser. T'attacher à Dieu, marcher dans la vérité, va te procurer 100 fois plus que le mensonge, que être rusé. Je te l'assure. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'héritage ne dépend. Un héritage, ce n'est pas l'argent. Quand je parle d'héritage, donc arrête de voir l'argent, la maison, la voiture. Non, oui, oui, oui. Parce que notre esprit est façonné. Hein. Depuis l'enfance, hein, on travaille pour avoir l'argent, pour avoir une maison, pour avoir une voiture. Vous voyez? Donc quand on parle de ces choses, tout de suite, ton esprit va sur. Ça capte maison, ça capte les immeubles. Dis à ton voisin, ça là, c'est ton héritage, mais ce n'est pas de ça que Dieu parle. Parce que si vous voyez, lorsque Jacob quittait chez Laban pour aller dans son pays, la Bible nous dit que Jacob était fort riche. Vrai ou faux? Mais c'est à quel moment Jacob est rentré dans son héritage? La nuit où il a rencontré Dieu. C'est le jour où Jacob a rencontré, a lutté. Le jour où Jacob a lutté avec Dieu, et lorsqu'il a gagné, et son nom a été changé. Et la Bible dit qu'on l'appelait Israël. Et Dieu dit de lui, mon premier-né. C'est là qu'il est rentré dans son héritage, l'héritage réel que son père Abraham transportait et que Isaac transportait. Et figure-toi, si tu as remarqué, il a dit, Israël, mon premier-né. Je suis son deuxième-né. Dis à ton voisin, tu es quelième né. Voici pourquoi est-ce que l'héritage qu'il y a de Dieu t'appartient. Dieu n'a pas dit mon héritier, il dit mon premier-né. Voici pourquoi lorsque Christ est né, toi aussi tu deviens. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens héritier de Dieu. Alléluia. Galates 3, verset 29 dit ceci. Et si vous êtes à Christ, et si vous êtes à Christ, il a dit si. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Ça veut dire quoi? Héritier selon la promesse. Il dit si. Je vous ai dit ici mercredi, on ne naît pas enfant de Dieu. On fait quoi? On devient. On devient enfant de Dieu du moment où on a accepté de suivre Jésus. Mais encore, Jean 15 nous dit, si vous vous attachez à moi, ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu es de Christ et puis détaché de Jésus-Christ. Ça ne se fait pas une seule fois. Tu ne peux pas renier Jésus. Lorsqu'on est attaché, on continue d'être attaché à Christ. Certes, on ne perd pas la foi, on ne perd pas le salut. Pourquoi? Parce que c'est une nature. C'est comme je suis héritier d'eux. C'est un fait, c'est une nature qu'on reçoit lorsqu'on devient enfant de Dieu. Mais vous devez comprendre que hériter du royaume est un processus. Il dit, comme le sarment ne peut porter du fruit s'il ne reste attaché au cep. Aussi, vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez attaché. Donc, tu ne peux pas, il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, donc héritier selon la promesse. Donc, dis à ton voisin, tu es héritier. Alléluia. Si tu ne comprends pas encore, gloire à Dieu. Amen. Il dit dans Genèse 17, verset 8, je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, ton héritage, en possession perpétuelle. Dis avec moi, perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vais expliquer notre thème. C'est juste pour briefer, comme j'ai parlé de notre héritage, pour juste te mettre dans le contexte. Donc, notre thème, remets-moi le premier. Notre thème, entrer dans ses promesses, selon les 12 portes d'accès, la Bible nous dit, on va le voir tout à l'heure, que le royaume de Dieu a 12 portes d'accès. Et que ces 12 portes d'accès, sur ces 12 portes d'accès, sont mentionnés les 12 noms des 12 enfants d'Israël. On n'a pas dit de Jacob. D'Israël. On va le lire ensemble. Apocalypse 21. Apocalypse 21, à partir du verset 12. Lisons ensemble. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les 12 portes, 12 anges. Et des noms écrits. Ce quoi? Des 12 tribus des fils de qui? D'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, dans la Bible, c'est le Sud. Okay? Au Midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre aussi un autre verset, Ézéchiel 48. Il faut noter. Ézéchiel 48, à partir du verset 30 jusqu'au verset 35. Dit ceci, voici les issues de la ville. Du côté septentrional, 4100 cannes et les portes de la ville d'après les noms des enfants d'Israël. 3 portes au nord, la porte de Ruben, 1, la porte de Juda, 1, la porte de Lévi, 1. On continue. Du côté oriental, 4100 cannes et 3 portes. La porte de Joseph, la porte de Benjamin, la porte de Dan, du côté méridional, 4100 cannes et trois portes, la porte de Siméon et la porte d'Issacar, la porte de Zabulon. On continue. Du côté occidental, 4100 cannes et trois portes, la porte de Gad, la porte d'Azer et la porte de Nephtali. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il dit quoi? À la fin, il dit, et dès ce jour, le nom de la ville sera appelé l'Éternel est ici, le royaume des cieux. Alors le Seigneur plante le décor, il dit, le royaume que nous attendons, le royaume dans lequel nous sommes entrés, est un royaume qui possède, qui a des portes d'accès. Et ces portes d'accès, amen, sont gardées par les bénédictions. Amen, qui sont gardés par les bénédictions des noms des tribus d'Israël. Si tu n'ouvres pas la porte de Ruben, tu ne seras pas béni à ton départ ni béni à ton arrivée. Il y a des gens, par exemple, qui sont bénis financièrement. Mais parfois, vont commencer une chose et ne vont jamais la terminer. Ça, c'est une porte. Commencer une chose et la terminer. Il y a des personnes... Vous allez voir dans la vie, ils sont malchanceux. Très malchanceux. Tout le monde va passer là avec une bénédiction. Lorsque lui va arriver là, malheur. Est-ce que vous savez que l'une des portes, c'est la faveur des hommes? L'une des portes, la grâce de Dieu. Et c'est des portes que vous devez ouvrir pour entrer dans votre bénédiction. L'une des portes s'appelle la porte de Zabulon. C'est la porte, c'est quoi? Tu auras le dessus sur tes ennemis. C'est des portes. Même pour avoir l'argent. Si les ennemis sont sur ta vie, quel que soit, ils vont avaler ton argent tout le temps. Tu es béni. On te bénit. Tu as du salaire. Tu as tout. Mais tous les jours, tes enfants sont à l'hôpital. Tous les jours, ton argent s'en va au pays. Tous les jours, tu ne sais pas ce que tu fais, mais tu vis dans les dettes. C'est une porte à ouvrir. Et cela est ton partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Même moi, la diapo, j'ai parlé des 12, 12, 12. Si vous remarquez, c'est très bizarre. Mais ici, on nous parle de 12 portes, de 12 anges, de 12 enfants d'Israël, ou bien de 12 tribus, de 12 bénédictions selon Deutéronome 28. Quand Jésus arrive, qu'est-ce que Jésus fait? Il nomme 12 ans. Disciples. Et si vous avez remarqué, quand l'autre est décédé, quand Judas est mort, ils ont tenu à ce qu'on le remplace pour que les 12 soient toujours là. Si vous remarquez, lorsque Joseph était mort, parce que Joseph est mort, la tribu n'est pas restée la tribu de Joseph. Et puis, à un moment donné, Dieu a dit à Lévi que Lévi soit consacré à son œuvre. Donc, Lévi ne pouvait pas posséder de territoire. Ils ont scindé la tribu de Joseph en deux tribus, Éphraïm et Manassé, pour que ça soit 12. Donc, c'est important. Ce n'est pas un hasard. Dis à ton voisin, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que vous voyez où on s'en va? Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle des 12 bénédictions, beaucoup de personnes le voient à leur intérêt. Mais bien aimé, ce n'est pas ton intérêt. Tu vas rentrer dedans pour la gloire de Jésus. Amen. Tu dois rentrer dedans pour la gloire de Jésus. Parce que c'est lorsque la gloire de Jésus est manifestée que le reste t'est donné. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et le grand 2, c'est posséder notre héritage. Je vous ai dit que je suis en train de faire juste l'introduction aujourd'hui. Posséder notre héritage. La Bible nous dit dans Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est, et ce sont les qui s'en emparent. On va le relire. Depuis le temps ou l'avènement de Jean-Baptiste jusqu'à présent, dis avec moi jusqu'à présent. Il faut dire jusqu'à mon air, jusqu'à moi. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Lorsqu'on parle de violence ici, ce n'est pas une violence sur les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsqu'on a dit aux 12 espions d'aller voir, lorsque les 12 espions sont allés voir, ils ont croisé quoi? Ils ont vu des géants. Mais seuls 2 ont pris le dessus sur les géants. Caleb et Josué. Le reste, ils viennent rendre compte en disant, on a vu des géants, des fils d'Anak. À leurs yeux, comme s'ils étaient dans les yeux des géants, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles, et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Le jour-là même, c'est fini. Ils ne pouvaient plus ouvrir leur clé de bénédiction. Ils ne pouvaient plus rentrer. Et si vous allez regarder la suite de l'histoire, ces 11 tribus ont été déportées avant Judas. Ces 11 tribus se sont rebellées. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous dites, je rentre dans mes bénédictions au nom de Jésus. Je rentre dans ma bénédiction au nom de Jésus. On ne rentre pas dans le royaume en étant mou. On ne rentre pas dans le royaume en se taisant. On ne rentre pas dans le royaume en étant une personne remplie de douceur. La douceur est une bonne chose. Nous allons voir. Il y a une porte là, c'est une porte de douceur. Il faut la prendre. Mais ici, quand on parle du processus d'ouvrir une porte, on parle d'un processus de violence. On parle d'un processus de posséder une clé et de l'ouvrir. On parle d'un processus où tu ne dois pas t'arrêter devant, face à une porte. Cette porte doit s'ouvrir. Cette porte doit s'ouvrir. Et tu ne peux pas t'arrêter devant la porte et tourner en rond devant cette porte pour dire, est-ce que je peux contourner? Tu dois briser le verrou de fer. Tu dois briser cette porte. Tu dois prendre possession de ton héritage. Car cet héritage t'appartient. C'est ton droit. Nous l'avons vu. Si vous êtes de Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham selon la promesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Rappelez-vous que dans Matthieu 16, il a dit à Pierre, je te donnerai quoi? Les clés de quoi? Du royaume. Non, le royaume de Dieu a des clés. Et c'est ces clés-là que vous devez posséder. Amen. Et ces clés, ça se prend avec violence. Et cette violence, ce n'est pas la violence sur des gens, c'est la violence sur soi-même. Parce que lorsque un homme est né, cet homme-là reçoit des conditions adamiques. Lorsque tu es né, il y a des choses qui sont attachées à ton cœur. Et ces choses-là sont comme des incapacités. C'est comme des choses qui favorisent l'accès du diable dans ta vie. Voici pourquoi des personnes qui ont été envoyées par Dieu pour aller prendre possession de leur territoire se sont vues minuscules devant quoi? Des géants. Comme si Dieu était minuscule devant des géants. Pourtant, la Bible dit que Dieu fait de la terre son marche-pied. Tu dois être violent. Et la violence, c'est quoi? La violence, c'est la circoncision. La violence, c'est dominer la chair et le sang. La violence, c'est obéir à Dieu. Dis à ton voisin, la violence, ce n'est pas des coups de poing. La violence, ce n'est pas pour insulter quelqu'un. La violence, ce n'est pas de pousser la tête de quelqu'un. Non. La violence, c'est la circoncision. La violence, c'est dominer la chair et le sang. La violence, c'est obéir à Dieu. Je vous ai dit, quand Dieu donne un commandement, c'est que de façon naturelle, c'est difficile de faire quoi? D'obéir. Ça veut dire que pour pouvoir rentrer dedans et obéir, il faut être violent. Quand il dit, tu obéiras à ton père et à ta mère, ça veut dire que c'est difficile. Parfois, papa dit des choses, ça ne te plaît pas, mais tu dois obéir. C'est une violence qu'on fait sur soi-même. Dis avec moi la circoncision. Alléluia. Prenons Josué 5, versets 1 à 12. La Bible dit, lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussent passé, il perdit quoi? Courage et fut consterné à l'aspect. My God. Il faut dire à l'aspect. Quand le démon me voit là, j'ai un aspect là. Ah. Il dit à l'aspect des enfants d'Israël. On continue. Il dit en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais des couteaux de pierre. Et quoi? Circoncis. Circoncis de nouveau. Il dit de nouveau. On va comprendre pourquoi il a dit de nouveau. De nouveau, les enfants d'Israël. Une seconde fois, Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Alléluia. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Alléluia. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des enfants de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner. On continue. Pays où coule le lait et le miel, ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncis toute la nation, ils restaient à leur place dans le champ jusqu'à leur guérison. Dis avec moi circoncision. Circoncision. Alléluia. Est-ce que c'était tout? L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai fait quoi? J'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgad jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgad et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent le blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Dis avec moi cette année-là. Cette année, je mangerai le fruit de ma destinée. Cette année, je mangerai le fruit de ma destinée. Cette année, je mangerai le gras de cette nation. Cette année, je mangerai le fruit de ma destinée. Et toute forme de mauvais fruit que le diable me présentait s'annule, cesse dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, vous avez vu que à l'entrée de Canaan, Dieu n'a pas fait deux choses. Dieu a fait quoi? Il les a circoncis. Et lorsque nous lisons le livre de Colossiens 2, la Bible nous dit que cette circoncision n'est pas la circoncision physique. Parce que la circoncision physique, Israël en faisait. Il y a plein de peuples qui en font pour que ça soit hygiénique. Mais si vous voyez dans Genèse, la circoncision a été établie comme alliance pour qui? Pour Abraham. Et la Bible nous dit que ce jour-là, Abraham s'est circoncis et il a circoncis son fils Isaac, Ismaël, qui avait 13 ans. Alléluia. Ce fut là l'alliance que l'Éternel avait donnée. Amen. Mais quand on va dans Colossiens 2 va nous dire que cette circoncision n'est pas la circoncision physique, mais la circoncision spirituelle, la circoncision du cœur. Donc, dis avec moi circoncision du cœur. Lorsque Vous voyez un enfant qui naît avec ce qu'on appelle un prépuce sur la partie génitale. Et c'est ce prépuce-là qu'on enlève. Et si vous avez remarqué, ce prépuce vient d'où? Dès la naissance. Dis avec moi, dès la naissance. Lorsque vous voyez un enfant, est-ce qu'on apprend un enfant à être égoïste? Lorsqu'un enfant est né, si tu cries quelque part, l'enfant fait quoi? L'enfant crie, commence à pleurer. Pourquoi? De peur. Est-ce qu'on apprend un enfant à être peureux? Non. Est-ce qu'un enfant a déjà vu le lion pour pleurer? Non. Est-ce qu'on l'a déjà frappé pour pleurer? Non. Mais la peur, l'égoïsme et la jalousie sont des choses qui naissent directement sur le cœur de l'homme. Du moment où Adam n'a pas pris sa responsabilité, il a rejeté sur Ève, l'égoïsme est rentré. Alléluia. Donc lorsqu'un enfant naît, c'est quelque chose qui vient d'office sur sa vie. L'égoïsme. Avoir sa propre gloire. Ne pas faire la gloire de Dieu. Faire toute chose pour que mon nom soit vu. Je bénis le dirigeant dirigeant qui en a parlé un peu aujourd'hui. On ne fait pas les choses. C'est pour ça que je vous ai dit que dans l'héritage qu'on va rentrer, l'héritage, ce n'est pas pour nous. On rentre, on en profite, on jouit de l'héritage. Mais l'héritage appartient à Christ. Et l'héritage est pour la gloire de Christ. Mais la plupart des enfants de Dieu courent à l'héritage qui n'est pas. Ils courent à l'héritage pour leur propre bien, pour leur nom, pour leur gloire. Et Dieu veut que nous puissions comprendre que la circoncision, c'est enlever, c'est ôter en fait ce qui n'est pas de Dieu sur notre cœur. Et il ne pouvait pas rentrer dans le royaume de Dieu sans avoir ôté ces choses. Voici pourquoi dans Exode 4, lorsque Dieu a dit à Moïse, « Va en Égypte pour aller libérer mon peuple », c'était un projet de Dieu, ce n'était pas un projet de Moïse. Aller en Égypte, Moïse n'a jamais dit, « Je vais quitter Madian pour aller en Égypte ». Non. C'est Dieu qui est venu voir Moïse à Madian pour dire, « L'heure est arrivée, prends ce bâton, va, retourne en Égypte et va parler à mon peuple. Dis à mon peuple que je vais les conduire dans le pays que j'avais promis à leur père. » Mais la Bible nous dit, pendant que Moïse s'est mis en route en train de partir, Dieu l'attaqua pour vouloir le faire mourir. On va le lire ensemble. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils. Les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main. » On continue. « Tu les feras devant Pharaon et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Alléluia. « Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller. » On continue. « Voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Ça, c'est à Moïse, Dieu qui dit qu'il va dire ça à Pharaon. « Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, » lisons ensemble cette partie en rouge, « l'Éternel l'attaqua et voulut le faire. » Ils n'ont pas dit Satan. Ce n'est pas écrit Satan. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Donc, pour rentrer dans... Moïse était en train de partir pour rentrer dans sa destinée parce qu'il a été conçu comme libérateur du peuple d'Israël. Il était en route pour rentrer dans sa destinée lorsque Dieu va l'attaquer. Pourquoi? Parce que Moïse n'a pas pris le soin de circoncire son fils. Mais vous voyez, peut-être que Moïse n'avait pas la révélation. Les hommes, écoutez vos femmes. Séphora. On ne sait pas comment elle a reçu la révélation. Mais vous savez, Séphora, son père, c'est qui? Jéthro. La Bible nous dit que Jéthro était sacrificateur à Madian. Madian est un fils de qui? Voilà. De la femme de Ketura. Alléluia. Donc, Abraham avait expliqué comment est-ce qu'on adore Dieu. Donc, à Madian aussi, on adorait Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Séphora, l'Esprit lui a mis. Elle a été inspirée. Elle a reçu une révélation, un réma. Elle a coupé. Et puis, elle a jeté. Si c'était aujourd'hui là. Oh, tais-toi, tu parles trop. Les hommes, écoutez vos femmes. Souvent, elles ont des inspirations là. Il faut écouter vos femmes. Alléluia. Mais si vous voyez ici, lorsqu'on est sur la route de notre destinée, la chose que le Seigneur va nous demander, c'est notre circoncision. Et Colossiens 2 nous dit que cette circoncision n'est pas celle qui est physique, mais la circoncision du cœur. Ôte de ton cœur l'égoïsme. Parce que c'est quelque chose qui vient avec la naissance physique. Ôte ton cœur. Oh, de ton cœur, la peur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez que pour couper le prépuce, il a fallu être violent, comme je vous ai dit tantôt. Alléluia. Un prépuce, ça ne se coupe pas avec des rires. Ceux qui ont été déjà circoncis et ceux qui ont été circoncis à l'âge adulte peuvent témoigner que la circoncision, quand on est grand, ça laisse des traces dans la mémoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. D'après quelqu'un, tu vas crier yes. Alléluia. Amen, amen. Donc, pour rentrer dans notre destinée, il faut être circoncis. Et être circoncis, c'est être circoncis de la peur et de l'égoïsme. Ce sont des choses qui viennent toujours avec la nature humaine. Alléluia. Et comme j'ai déjà prêché là-dessus, je vais passer rapidement. Amen. Une personne qui veut entreprendre, qui se pose tout le temps des questions, Dieu te met à cœur d'entreprendre, mais tu te poses toujours des questions, tu as peur, et puis tu ne te lèves jamais. Tu n'as pas l'audace divine, c'est de la peur, c'est du prépuce à enlever. Une personne qui doit servir au groupe musical, mais tu regardes toujours la bouche des gens. On va me regarder, on va me dire ceci, on va me faire cela, ma bouche, quand je chante, c'est aigu. Mercredi, j'ai chanté ici, il est dégamé, fort même. Ça m'a fait quoi? Alléluia. Amen. Si tu n'enlèves pas le prépuce sur ton cœur, il y a des choses que tu ne pourras jamais avoir. Non, mon frère. Pourquoi? Parce que la peur est quelque chose qui est tapis dans l'homme dès la naissance. Et cette peur va te parler. Elle sait parler à l'homme. Dès qu'il y a une porte à prendre, elle va venir en premier. Sois prudent, sois sage. Alléluia. Et ça va t'enlever toute forme de force. Jésus a dit à Pierre, viens. Pierre avait commencé, mais la peur l'a enterré. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Il faut enlever aussi l'égoïsme. Il faut te poser des questions. Seigneur, pourquoi est-ce que je vois cette voiture? Pourquoi est-ce que je veux cette voiture? Pourquoi est-ce que je veux cette maison? Les motifs, amen, les motifs qui te poussent à acheter cette voiture, c'est quoi? Donc, comme ici, on aime tous avoir voiture. Au moins, ça touche tout le monde, quoi. Seigneur, qu'est-ce qui m'envoie? Qu'est-ce qui me motive? Il faut que tu te poses ces questions. Alléluia. Seigneur, pourquoi je cherche en vérité cet argent? pourquoi je tiens tellement à l'avis des autres pour tirer satisfaction? Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je veux faire différemment des autres? Pourquoi? Parfois, c'est poussé par l'égoïsme. Pourquoi on parle de nous? Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on ne t'apprécie pas, tu es complexé. Tu chantes et puis on ne t'a pas dit, tu as bien chanté aujourd'hui. Tu rentres dans ta coquille. C'est de l'égoïsme. Allez, chante. Alléluia. Amen, amen. Donne la place à Dieu. Si tu donnes la place à Dieu, bien-aimé, que tu dégames pas. Tu continues ta route. Et un enfant qui est né balbutie en essayant de marcher. Si une mère ne veut pas que son enfant tombe, l'enfant ne va pas marcher. Il faut que l'enfant tombe, se blesse même, pleure. Et puis ça passe. Alléluia. Gloire à Dieu. La deuxième cause de circoncision, c'est quoi? C'est dominer la chair. Alléluia. Dominer la chair. La Bible nous dit dans Romains 8, versets 5 à 8. La Bible dit ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. On continue. Et l'affection de la chair est quoi? Est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas. Voici pourquoi il y a des personnes qui sont dans l'église, qui marchent dans la chair, et puis veulent accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu marches dans la chair, tu veux accomplir la volonté de Dieu, tu ne pourras pas. Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne va même pas te laisser. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens même qui servent sous vous. La personne veut bien faire, mais la personne ne réussit pas. Il met toute son énergie. Il essaie, mais ça ne réussit pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, vous devez comprendre que la chair est différente du corps. Vous devez comprendre. La chair est différente du corps. Si on lit dès le début, il parle de ça. Alléluia. La chair est différente du corps. Alléluia. La chair, c'est une volonté de satisfaction personnelle. La chair, c'est le désir des choses du monde. La chair, c'est ce qui nous pousse à avoir des choses pour nous-mêmes, de façon égoïste. Or, la Bible nous dit que quoi que tu boives, quoi que tu manges, fais-le pour qui? Pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un être divin. L'Esprit vit en toi. Tout ce que tu fais, tu dois comprendre que je suis en train de boire parce que, quoi? Dieu, je dois faire du bien à mon corps pour que Dieu continue de m'utiliser. Mais boire pour satisfaire mon ego. Tu viens de pécher. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, car l'affection de la chair est inimitié. C'est-à-dire quoi? L'opposé de l'amitié. Amen. Donc tu te fais ennemi de Dieu toi-même. Gloire à Dieu. Le royaume dont on parle a un seul roi. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Laisse-le se mettre sur le royaume de ton cœur. Amen. Tu ne peux pas le mettre qu'un roi et puis toi aussi être roi. Ce n'est pas possible. Dis à ton voisin, ce n'est pas possible. Dans 1 Corinthiens 15, verset 50, il a dit ceci. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. C'est incompatible. C'est incompatible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et le troisième point de la circoncision, c'est obéir à Dieu. Lorsque Marie, à la fête de Cana, à la noce de Cana, était allée voir Jésus et que le vin était fini, Marie est venue voir les serviteurs et elle leur a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Alléluia. Et lorsque tu lis Jean 15, tu vas voir, Jésus dit, si je demeure en vous et que vous demeurez en moi, c'est alors. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous partiez et que vous portiez quoi? Du fruit. Mais au verset 4, il dit que personne ne peut porter du fruit s'il demeure en moi. Obéir à Dieu, c'est de laisser la parole de Dieu nous transformer et de marcher sur la voie de cette parole. Obéir à Dieu, c'est de croire que ce que Dieu me dit est la vérité. Et lorsque je marche avec elle, elle a la puissance de transformer ma vie et transformer les circonstances autour de moi. Obéir à Dieu, c'est de continuer à croire, même lorsque tu as l'impression que ce qui est devant toi est le contraire de ce que tu veux. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Et comme on finit bientôt, je vais vous présenter les 12 portes de bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, pour résumer, pour prendre possession de notre héritage, nous avons 12 portes à conquérir. Et Matthieu dit qu'on ne peut pas conquérir une porte avec douceur. On doit conquérir une porte avec quoi? Violence. Il dit, depuis l'avènement de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. C'est avec force qu'on la prend. Alléluia. Et donc, nos portes, les portes que nous devons conquérir à partir de ce jour, comme l'a dit la Bible, le jour même, à partir de ce jour, les portes que nous devons conquérir ont besoin de clés. Nous devons les forcer. Nous devons être violents. C'est l'attitude que nous devons avoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voici les portes. Nous nous rappelons dans Apocalypse, ce qu'on avait lu au début, Apocalypse 21, il dit les portes avaient quoi? Pour nom Ruben. Dis avec moi Ruben. Après Siméon. Après Lévi. Après Judas. Après Zabulon. Après Issachar. Après Gad. Après Dan. Après Nephtali. Après Joseph, après Benjamin, je n'ai pas cité un. Tu as tout cité, non? Tu as fait 12 portes à conquérir. Alléluia. Prenons Deutéronome 28 à partir du verset 1er. Il dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Il a commencé par si. Tu obéis. Je vous ai dit que lorsque Dieu dit obéis, ou bien lorsque Dieu donne un commandement, c'est que ce n'est pas facile à obéir. Ça veut dire que ça nécessite une violence sur soi. Lorsqu'il donne un commandement à l'homme, quand il donne un impératif, ça veut dire que c'est difficile à faire. Mais il faut que tu réussisses à faire pour avoir le fruit. Et ça demande une violence sur soi-même. Alléluia. Donc, pour conquérir le royaume, il faut être violent. Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ensuite, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Waouh. Répandons sur toi. C'est comme quand tu arrives à la ligne de... Quand tu cours, tu arrives, on fait quoi? Vous voyez, on envoie les... Comment on appelle ça? Voilà. C'est comme si tu arrives à la ligne de et puis il y a le ruban, tu cours comme ça. Il dit, les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Dis, c'est mon partage au nom de Jésus. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, on commence. On y va. Alléluia. Excusez pour la panne. On a une petite panne au niveau de la com. Alléluia. La première bénédiction, c'est Deutéronome 28, verset 3 qui dit ceci. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la bénédiction de Ruben, c'est la bénédiction territorial. Je vous ai dit, lorsque Dieu veut bénir une personne, il bénit la personne dans un lieu. Si tu te trouves dans un lieu Y et que c'est au lieu X que Dieu t'attend comme, quand il te donne le rendez-vous, tu ne seras pas béni. Quand il veut bénir Israël, il dit, quitte l'Égypte, va où? À Canaan. Abraham n'habitait pas à Canaan, il habitait Ur en Chaldée, sur des païens. Pour bénir Abraham, il dit, quitte ici, va dans un endroit. Dieu est souverain, vous pouvez dire, tiens la bénédiction. Lorsque Dieu veut te bénir, il t'envoie dans un endroit. Il faut dire, je suis dans mon territoire. Je reçois la bénédiction territoriale au nom de Jésus. Alors ce mois-ci, c'est cette première bénédiction que nous allons conquérir. Alléluia. Ensuite, il y a la bénédiction de Siméon. La bénédiction de Siméon dit ceci. Le fruit de tes entrailles est le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. La bénédiction de Siméon, c'est la productivité. Alléluia. Dit, mes entrailles sont bénies. Tout ce que ma main touche est béni. Tout ce que je fais est béni. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le second mois, ça sera le mois où nous allons conquérir. Alléluia. Si vous voyez les couleurs qu'on met, Ruben, c'est rouge bordeaux. Siméon, c'est orange. Alléluia. Ces couleurs ne sont pas au hasard. Ces couleurs sont les pierres précieuses qui étaient sur la tablette du souverain sacrificateur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ces pierres précieuses portaient ces couleurs. Amen, amen. Ensuite, la bénédiction de Lévi dit ceci. Ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est-à-dire, la nourriture ne va jamais quitter ta maison. Lorsque les gens sont dans la misère, lorsque les gens sont en difficulté, comme la veuve de Sarepta, Dieu t'apporte toujours à manger. Les gens peuvent mourir autour de toi. Toi, Dieu t'apporte de quoi manger. Et la bénédiction de Lévi, c'est la provision quotidienne. Alléluia. Ensuite, une des bénédictions que j'aime, la bénédiction de Judas. Cette bénédiction, c'est l'achèvement de tous mes projets. Combien de personnes commencent une chose et ne l'achèvent jamais? Oh Seigneur. Et ça, c'est une porte à prendre. C'est une clé à avoir pour rentrer dans ta bénédiction. Et cette bénédiction dit ceci. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alléluia. Ensuite, la bénédiction de Zabulon. C'est quoi? C'est la victoire sur mes ennemis. Il faut dire, je triomphe de mes ennemis au nom de Jésus. Et cette bénédiction, c'est... Deutéronome 28, 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Cela est ton partage au nom de Jésus. Ensuite, la bénédiction d'Issacar. C'est l'alliance de bénédiction. C'est-à-dire, la bénédiction te poursuit. Et il faut dire, je veux cette bénédiction. Alléluia. Il dit ceci, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays où l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il y a des gens, quand tu les vois, tu as l'impression qu'eux là, ils sont la faveur de Dieu même quoi. Et ça, c'est ta bénédiction. Reçois au nom de Jésus. Ensuite, il y a la porte de Dan à conquérir. Et la porte de Dan, c'est quoi? La sainteté et la distinction. Amen. Qui dit ceci dans Deutéronome 28, verset 9. Il dit quoi? Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme te l'a juré. Alléluia. Ensuite, une autre bénédiction que j'aime beaucoup. La bénédiction de Gad. Qu'est la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Il faut avoir la faveur de Dieu, mais lorsque tu dois aller travailler, c'est des hommes qui vont décider. Alléluia. Lorsque tu arrives dans des endroits, c'est des hommes qui vont t'ouvrir la porte. Lorsque Dieu veut te bénir, il t'envoie une personne. Donc, tu auras la faveur de Dieu, mais tu auras aussi la faveur des hommes. Alléluia. Cela est ton partage au nom de Jésus. Il dit ceci, « Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. » C'est ton partage au nom de Jésus. Ensuite, une autre bénédiction que j'aime. Waouh, j'aime toutes les bénédictions. J'aime toutes les portes. Dis avec moi, Azer. Azer, la multiplication. Quand Dieu met une chose dans ta main, ça se multiplie. La Bible nous dit que lorsque Joseph touchait une chose, il l'amenait à perfection. Lorsqu'il touchait une chose, on ne pouvait même plus rendre cela perfectible. Tellement il rendait ça perfectible. Alléluia. Quand Dieu dépose une chose dans ta main, lorsque tu as cette clé, cela se multiplie au nom de Jésus. Cela est ton partage au nom de Jésus. Il dit ceci, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Donc sois à ta place. Dis à quelqu'un, tu es au bon endroit, au bon moment. Ah, une autre bénédiction que j'ai. Et c'était ma tribu à moi. La tribu de Nephtali, la bénédiction de Nephtali, c'est la grâce de Dieu. Tout est grâce, tu ne peux rien faire sans grâce. Alléluia. Et cette bénédiction dit ceci. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Cela est ton partage au nom de Jésus. Ensuite vient la bénédiction de Joseph. Waouh! C'est l'influence. Dis avec moi, influence. Il y a des influents ici. Gloire à Jésus. Il dit ceci, tu prêteras à beaucoup de nations. On n'a pas dit une seule nation. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Les cartes de crédit doivent disparaître dans cette église. Les cartes de crédit doivent disparaître dans cette église. Quand on va finir ça, tu dois marcher par débit. Alléluia. Les banques vont te poursuivre. Tu dis non, 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 non. C'est moi qui dois vous prêter. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et puis la dernière bénédiction, la dernière clé à posséder, c'est la porte de Benjamin. C'est la porte de la domination. Wow, wonderful. Il dit ceci, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Dis avec moi, je ne serai jamais en bas. Je serai toujours en haut au nom de Christ Jésus. Reçois, cela est ton partage. Cela est ton partage. Les 12 clés sont pour toi. Tu rentres dans ta destinée. Je le déclare au nom de Jésus. Tu possèdes tes 12 clés, tu possèdes tes 12 portes au nom de Jésus-Christ. Alléluia, on acclame le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu.
Merci pour votre attention. Nous vous invitons à réécouter aussi souvent que possible ce message. Car la foi pour accomplir des exploits vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants du pasteur Lorenzo sont à votre entière disposition. Soyez bénis.